Vous écoutez France Inter, il est 11h05, c'est l'heure de retrouver C'est le bazar avec François Génier et Sébastien Danchin.
Non, non, moi je ne suis. Mais alors, absolument pas superstitieux. Non, non, pas du tout. Non, non, vendredi 13, tout ça, moi ça me.
Ah non, moi non plus, mais simplement, je sais pas, ça doit être sentimental, mais j'ai toujours sur moi un petit gris-gris.
Vous avez un gris-gris ?
Oui, regardez, c'est ça.
Oh, c'est quoi donc ?
Avec des trous à l'intérieur. Bah, ça, c'est un jeton de métro de Chicago.
Ah, bah écoutez, ça doit sûrement coûter moins cher que le gris-gris qu'à Cherie Blair.
Cherie Blair, la femme du Premier ministre.
Oui, oui, elle a un bouclier bioélectrique qui est formé de cristaux magiques.
C'est Tony Blair, ça.
Oui, oui. L'appareil protège des pollutions électromagnétiques de la vie moderne.
Ah, bah ça, c'est intéressant.
Et ça coûte 1500 francs.
Est-ce que ça protège des pollutions nocturnes de Tony Blair ?
Enfin, merde.
Oh non, enfin bon, je disais ça comme ça. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, que ce soit en Angleterre ou en France, partout, c'est toujours le bazar.
Et dans ce magnifique bazar que nous avons sous les yeux, Sébastien, quand vous plongez la main là, au hasard, qu'en sortez-vous comme thème pour aujourd'hui ?
Eh bien, j'en sors quelque chose de grave, d'important, quelque chose qui nous touche tous, quelque chose qui peut nous rendre heureux ou malheureux, quelque chose qui peut nous transfigurer ou nous brûler les mains, François. Ouais. C'est quelque chose qui nous touche, vous ne devinez pas, c'est l'argent.
Salut mec, ça va ? Tu vas bien ? On se présente ? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto,
c'est nous.
Le bingo,
c'est nous.
Le tiercé, le quarté, le quinté,
c'est encore nous.
Le quinté plus. On te reçut, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible. Échappe, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV,
crash, crash.
Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes le sac, ton crasse et Kerbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout.
Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Un pot fiscaux. Un pot loco, un pot direct et un pot indirect.
Un pot foncier, un pot rentier. Un pot sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thune.
Un pot sécheresse, un pot richesse, un pot nouveau, un pot rétro, un pot recto, un pot verso, un pot sur le revenu, un pot sur les revenants.
Nous sommes le sable, quand grâce et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent.
Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire, IFA. Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%.
Contribution sociale de solidarité.
Attends, c'est pas fini.
Majoration relevée, charge sociale et plus-value. Cotisation pré-retraite,
cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé.
Ton terron, tes actions, tes cicaves, ton liquide, tes pourliges, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes napos, tes madeleines, tout ce qui traîne.
Ce que t'as sué de ton front, on te sucera jusqu'au front.
Nous sommes mieux savent qu'en grâce et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Nous sommes Ursaf, Cancas et Carvalas. Que tu sois
un
peu démagos, mais
carrément
très rythmé, l'express rame tout.
L'argent, on te le prend par tous les côtés, mais il faut quand même pas oublier que l'argent que nous payons dans nos impôts, ça sert quand même à des choses assez utiles, les écoles, les routes et tout, après tout, on s'en sert aussi.
Ah bon ? On en profite, hein,
François, quelques chiffres.
Oui, j'ai quelques chiffres. Vous savez, vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir dans un instant, il y a très exactement 11,5 millions de billets qui sont déposés chaque jour dans les guichets des banques françaises.
Et combien sont retirés, alors ?
Alors, il y en a environ près de 2 millions qui ne sont pas remis en circulation. Soit parce qu'ils sont usagés, trop abîmés, ils sont réexaminés, et puis soit détruits, soit remis en circulation. Et il y a également entre 8 et 10 milliards de pièces de monnaie qui circulent en France.
8 milliards de valeur ou en nombre d'unités, enfin de...
Non, en 8 milliards de pièces. Dont 2/3 sont des pièces jaunes. Et il y a depuis quelque temps une évaporation inexpliquée de pièces de 5, 10 et 20 centimes.
Oh,
et pour pallier cette évaporation, plus de 4 millions de pièces seront produites par jour en 1997.
François, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre parce que nous avons tout de suite, c'est Tommy Franklin qui est avec
notre
nous
ami
tout, au long, tout au long de cette matinée. Tommy, je crois que vous avez une communication importante à nous faire. Allô, Tommy, c'est à vous.
J'ai été perdu samedi dernier à 12h15 à la gare d'Orsay, où dans le train se dirigeant vers Orly, un portefeuille contenant une petite somme d'argent, des papiers et surtout une gourmette en or. Le portefeuille contenait également deux bulletins de paye RTF. Or, cette gourmette a une grande valeur sentimentale pour la personne qui l'a perdue. Et celui ou celle qui l'a trouvée ferait une bonne action en renvoyant ce modeste bijou à Radiodiffusion Française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Et merci d'avance.
Bon, écoutez.
Voilà. Merci à vous, Tommy. J'espère qu'on va retrouver. Alors, vous avez entendu cet appel. Si vous l'avez trouvé, c'était en 1960, donc ça fait quand même 38 ans. Mais si jamais, on ne sait jamais. Il y a des lettres, vous savez, qui se retrouvent après.
Oui, parce qu'on n'a pas retrouvé l'archive qui nous disait si on avait retrouvé ce portefeuille. Donc, on s'est permis de relancer cet appel.
Oui, bien sûr.
Merci, Tommy.
Merci. Alors, je voudrais qu'on vous présente notre premier témoin. Je suis allé, c'est un témoin qui œuvre à la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs. Il s'agit de son président, M. Pierre Delanoë, et nous l'avons retrouvé enfermé dans un coffre dans les sous-sols de la SACEM. Et c'est là que nous l'avons interviewé, que nous l'avons rencontré. Pierre Delanoë, une première question, bien sûr, toute naturelle. Est-ce que vous, qui êtes un homme d'argent, vous gérez un patrimoine considérable, est-ce que l'argent a déjà inspiré certaines de vos chansons ?
J'en ai écrit une avec Gilbert Bécaud, une rigolote, qui s'appelait « Ah si j'avais des sous ». Et qui disait « Ah si j'avais des sous, je ferais des affaires ». Mais pour faire des affaires, d'abord il faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Vous voyez ce que j'ai... c'était un truc pour rigoler, mais non, l'argent m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir assez pour pas avoir de problème, mais l'argent, je m'en fous, j'ai jamais fait d'opération de bourse, j'ai jamais acheté quelque chose pour revendre, ça c'est du commerce, et je déteste le commerce, donc l'argent m'intéresse pas.
Ah si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, faut des sous.
C'est bien connu.
Ah si j'avais des sous, j'irais chez le notaire. J'achèterais de la terre à Narbonne ou en Poitou où je planterais mes choux. Mais pour planter mes choux, il me faut de la terre. Pour acheter de la terre, comme dit monsieur le notaire, c'est une affaire de sous. Et des sous, mais j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, il faut des sous.
C'est bien connu.
Ah si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Ah si j'avais des sous, comme j'en ai envie. Je serai riche maintenant et j'aurai évidemment beaucoup de sous.
Si c'est bien connu.
Ah, si j'avais des sous, Gilbert Bécaud, c'était en 1959, très précisément. Il y a une autre chanson de Gilbert Bécaud qui fait allusion à l'argent, c'est l'addition.
Mais
l'argent, l'argent, tout s'achète et tout se vend.
Mais c'est écrit par Delanoé aussi.
Ah, merci de la colle, c'est gentil, vous voyez, je ne le sais pas, là, tout de suite,
bon,
il
alors,
faudrait que je cherche.
Je ne vous colle pas tout de suite. Qu'est-ce que vous avez comme chanson sur l'argent? C'est un thème populaire dans la chanson, ça?
Ah, c'est un thème populaire, surtout pour dire que c'est dur d'avoir de l'argent,
ah,
et que quand on
vérité,
en a, et puis que l'argent est sale.
Oh,
le
bah
blues
oui.
du flouze, Richard Montaner,
oui.
Machine à sourds, Rachid Barry,
oui.
L'argent ne fait pas le bonheur, une célèbre chanson des Parisiennes, l'argent trop cher, le groupe Téléphone.
C'est très vrai, tout ça.
Tonton Cristobal, non? Est revenu
plein de sous,
ça c'est Pierre Perret.
Oui, l'oncle d'Amérique.
Sinon, regarde les riches, Patricia Cass. Ah, si j'avais un franc 50,
Brice
Vian. Et puis très récemment, le groupe IAM a écrit et chante une chanson ou dit une chanson qui s'appelle Des sous.
Alors j'ai une autre colle pour vous, François. Vous savez que notre premier témoin, nous avons appelé à la barre Monsieur Pierre Delanoé, que nous retrouvons dans le coffre-fort de la SACEM.
Oui.
Monsieur Delanoé, savez-vous quel était son premier métier?
Bah, bien sûr que je le sais, j'ai préparé l'émission comme tout le monde. Enfin,
oui,
il était inspecteur, inspecteur des finances.
Il était inspecteur des finances, très bien.
J'en ai assez, que vous sous-entendiez que je n'y connaisse rien.
Mais non,
alors, s'il vous plaît,
mais ne soyez pas
on prépare l'émission tous les deux.
Ne soyez pas
je suis autant au courant que vous.
Ça y est, le voilà qui monte sur ses grands chevaux, ça ne va pas du tout.
Un bon mot
pas
pour
du
me mettre
tout.
En difficulté.
Mais non, il est fonctionnaire des finances. Alors, adressons-nous tout de suite à notre ami Pierre Delanoé. Cher monsieur Delanoé, vous avez été percepteur, donc l'argent, c'est quelque chose que vous connaissez.
Quand on est dans un poste local, chez Fieux de Canton, on manipule l'argent et on fait la caisse. Et je me souviens très bien que le 31 décembre 1940, où j'étais surnuméraire, receveur par intérim à Yvetot en Normandie, j'ai fait la caisse pendant toute la nuit du 31 décembre à la recherche d'une erreur de 15 francs. J'arrivais pas à trouver, à faire cadrer, parce qu'il fallait que j'ai... le passif et l'actif, et il me manquait 15 francs quelque part. Bon, j'aurais pu les mettre dans la caisse, mais ça servait à rien. Il fallait que mes chiffres collent. Et j'ai passé ma nuit à retrouver ces 15 francs. Je ne sais pas si je les ai retrouvés. Je vous laisse le suspense.
Ah, les a-t-il retrouvés?
Ah, ben c'est un vrai suspense.
Sébastien, vous qui savez tout.
Bien sûr, c'est vrai.
Grand professionnel, est-ce que
Bien
vous avez
sûr.
Pensé à demander à Pierre Delanoé comment on faisait quand on gagnait tout d'un coup beaucoup d'argent, quand une chanson avait marché, qu'on rentrait une énorme somme?
Bah,
vous avez pensé à lui poser la question?
Non, je dois dire que je n'ai pas pensé à poser la question.
Ah,
donc
d'accord.
Je suis tout à fait désolé, mais on peut rattraper ça tout de suite.
Ouais.
Je vais le faire. Monsieur Delanoé, alors comment est-ce qu'on fait pour quand on a une chanson à succès, tout ça, puis qu'on doit gérer d'un seul coup une grosse somme d'argent. C'est ça, François?
Oui,
hein, monsieur
ça.
Pierre Delanoé, alors comment on fait?
Il est vraisemblable que si tout d'un coup on gagne au loto des sommes gigantesques, comme on en gagne actuellement, et qu'on est un salarié modeste, ça vous tombe sur le coin de la gueule, ça doit être effarant, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et on en fait certainement un mauvais usage. Mais quand on gagne progressivement de l'argent, parce que moi, j'ai pas gagné, ça ne m'est pas tombé sur la tête comme ça. J'ai commencé à avoir un peu de succès. Mes chansons marchaient de mieux en mieux grâce à Gilbert Bécaud. J'ai fait des succès, puis des succès internationaux, etc. etc. Bon. On s'habitue bien à gagner de l'argent. C'est pas un problème grave. Hein. C'est beaucoup plus un problème de pas en gagner et de pas en avoir que d'en avoir trop. Faut pas exagérer. Il y a des limites.
Kidnappé à la une, c'est fou ce qu'on fait pour la thune. Encore un coup de l'empereur du plastique, moralité élastique. La fille du tchèque vient de se marier en blanc, cela dit en dévoilant la compta de son amant apparatchik. C'est fou ce qu'on fait pour le fric. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cent, je suis dans la jeune momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. que le caviar a un goût amer. Quand on est comme moi découvert, j'ai des gros problèmes d'argent. Des gros problèmes d'argent, j'ai des gros problèmes d'argent. J'envoie mes dons au nouveau roi du monde, je m'endors sur son programme. Faudrait pas que la race s'éteigne en blonde, imaginez un peu le drame. Sur la plage d'une république bananée, c'est toujours les mêmes qui se mouillent. Au fond des bois, je les entends tirer, et c'est encore moi qui douille. J'ai des gros problèmes d'argent, je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mines et des cents, je suis dans la gêne momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent, je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Que le caviar a un goût amer, quand on est comme moi découvert. J'ai des gros problèmes d'argent, des gros problèmes d'argent, d'indicibles problèmes d'argent. J'ai d'énormes problèmes d'argent, j'ai des gros problèmes d'argent. José appelle son fils qui est de la police, elle a cafeté son patron. Coffré alors qu'il est passé en Suisse, sa petite combinaison. Le patron sponsorisé par un vicomte, dans la nuit à découvert, s'est fait virer en secret sur son compte la Dadgio au goût amer. J'ai deux gros problèmes d'argent, je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Moi qui gagnais des mille et des cents, je suis dans la gêne momentanément. J'ai des gros problèmes d'argent, je vais m'en sortir mais je ne sais pas comment. Mes actions coulent, pleurent et tiganent, mes actions coulent comme le champagne. J'ai des gros problèmes d'argent, des gros problèmes d'argent, j'ai des gros problèmes d'argent.
Voyez, chanteuse,
réussi, hein.
Bah, chanteuse, ça peut marcher. Elle s'appelle Rachel Desbois, mais elle est comme nous. Elle a des gros problèmes.
Vous avez vu, elle devient hystérique à la fin. Qu'est-ce qui lui prend?
Bah, écoutez, vous savez, l'argent, ça peut vous mettre dans tous vos états. Vous le savez aussi bien que moi, Sébastien.
L'argent propre, l'argent
je vous ai déjà
sale.
Vu mal, hein, parce que vous n'aviez pas d'argent. Enfin, vous savez, l'argent propre, l'argent sale.
Ça y est.
L'argent sale. Bon, vous savez qu'il. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez le savoir dans un instant, parce que je vais vous le dire.
C'est la formule consacrée.
5490 milliards de francs circulent chaque jour dans le monde.
Oui.
Hein, c'est un petit peu, voilà. Ouais. On sait, alors, là-dedans, dans cette masse d'argent qui circule, il y a l'argent propre et l'argent sale.
D'accord.
Alors, il est très difficile de faire la part des choses.
Voilà, comment vous avez fait, alors?
Bah, écoutez, on sait que 7 milliards, chaque jour, 7 milliards de francs, c'est le montant de la recette du trafic de drogue dans le monde.
D'accord.
Chaque jour.
7 milliards de francs par jour, oui.
Et on sait que la mafia italienne a réalisé un chiffre d'affaires quotidien de 992 millions de francs en 1996, dont 250 millions proviennent du trafic de drogue.
Oui, c'est très maintenant, bizarre qu'on puisse chiffrer tout ça. Moi,
les chiffres de l'argent sale concernant les partis politiques en France ou ailleurs, ça c'est beaucoup plus difficile à déterminer.
Ah oui, d'accord. Mais de toute façon, c'est difficile de mesurer, mais alors en plus, c'est difficile de se le procurer. Il faut appartenir à la mafia, des trucs pas possibles, ouais, ça non. Va pas. Moi, je vous propose une méthode beaucoup plus simple, le hold-up.
Hein? Ah oui, c'est classique.
Alors, je vous propose de revenir en arrière, 21 ans en arrière. On se retrouve en 1977 pour un hold-up tout à fait extraordinaire.
Un hold-up avec prise d'otage a eu lieu cet après-midi à Annecy, à l'agence de la BNP. Un jeune gangster venait de commettre un hold-up lorsqu'il était pris en chasse par deux garagistes. Se croyant pris, il fit demi-tour et rentra précipitamment dans la banque, prenant le directeur en otage. Afin de montrer sa détermination, il a tiré trois coups de feu qui, heureusement, n'ont blessé personne. Les négociations sont en cours. Hélène Bessis a téléphoné à la banque et c'est le gangster qui lui a répondu. Réponse brève mais éloquente. Écoutez plutôt.
Oui, bonjour. Qu'est-ce que se passe-t-il exactement? Dites-le nous.
Le fric, madame, rien que le fric.
Oui, mais à part ça...
Pour moi, c'est tout est perdu, vous avez compris?
Tout est perdu, mais pourquoi tout est perdu?
C'est plus la peine de le rappeler.
Ah, il n'est pas bavard, mais c'est net. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il porte une cagoule.
Ah, l'argent ne fait pas le bonheur.
Non,
les
l'argent...
Parisiennes, c'est ça que vous nous aviez vendu déjà tout à l'heure. J'ai bien compris, vous voyez, oui. J'écoute ce que vous me dites oui. Des fois.
Oui, bien sûr. Votre argent
il
nous
est tout
intéresse.
D'un seul coup, hein.
Votre
hein,
argent nous intéresse. Vous vous souvenez de ce slogan d'une banque dans les années 80?
Une banque nationale parisienne. Oui,
oui, à l'époque. Bon, à l'époque, on n'hésitait pas à dire la vérité. On imagine mal combien l'argent, notre argent peut intéresser les banques. Depuis la naissance, vous le savez, on peut.
Ah bah oui, ça c'est vrai que.
On nous donne même de l'argent quand on fait un enfant. C'est-à-dire que cet enfant a tout de suite un compte ouvert et on le tient bien. Les banques le tiennent bien.
Ah oui, moi quand ma fille est née, elle a eu 100 francs.
Ah ben moi, quand mon fils est né, il a eu que 50.
Oui, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Alors peut-être que ça fait une différence.
Il faudrait que je refasse un
enfant. Ça, c'est un coup qui vaut le coup, on dit, vous comprenez?
Et vous savez que dès sa naissance, un enfant peut posséder un livret bleu, un compte ou un plan épargne-logement. Et entre 12 et 16 ans, les adolescents peuvent ouvrir un livret jeune, mieux rémunéré d'ailleurs que le livret A. Et ils peuvent y placer jusqu'à 10 000 francs. Et pour bien les tenir, eh bien, ce livret, ils peuvent évidemment en profiter jusqu'à l'âge de 25 ans. À 25 ans, c'est terminé. À 25 ans, il faut passer dans une autre tranche. Parce qu'on gagne plus d'argent et il faut que ça rapporte plus à la banque.
François, quel est le pays de l'argent?
Oh, ça, alors là.
Ce sont les États-Unis, voyons.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Bien sûr, ce sont les États-Unis.
Bah, tout est
alors,
grand, là-bas.
J'ai voulu trouver un témoin qui puisse me parler des États-Unis, qui soit compétent en la matière et qui soit également compétent en matière d'argent en France. Alors, j'ai trouvé un Américain qui vit en France. Il s'agit
un
de Bob
banquier.
Swaim.
Ah,
non, c'est pas un banquier, c'est un cinéaste. Mais ça rapporte aussi comme métier, hein, ça marche.
Oui.
Et Bob Swaim est cinéaste, il est établi en France depuis, je crois, quelque chose comme 30 ans, trentaine d'années. Et donc, je pense qu'il était bien placé pour ça. Alors, nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit troquet derrière la Banque de France. Et c'est là que, dans les toilettes, puisque c'était l'endroit le plus idoine, j'ai pu lui demander comment il envisageait cet antagonisme entre la France et l'Amérique, question d'argent.
Je crois qu'il y a une différence. Les Américains sont très fiers d'avoir de l'argent, d'être riches. Et puis en France, on se sent coupable. On ne parle jamais d'argent comme ça. On a un peu honte. Hein? D'ailleurs, j'ai vu souvent ici, si vous avez un Rolls-Royce, c'est craignos parce qu'il y a des jeunes qui passent dans la rue avec des clés qui le rayent. En Amérique, un mec qui a un Rolls-Royce, on le respecte. On dit, ah, c'est un monsieur. Ici, on dit, c'est louche. Hein? Il a un Rolls-Royce, il a une grosse Mercedes, c'est louche. C'est côté latin, catho, je ne sais pas. C'est forcément... oui, c'est vrai, c'est très différent. C'est très différent.
Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, si seule, pauvre petite fille riche. Tu pleures parce que tu n'as pas le droit d'épouser un pauvre garçon comme moi, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Toute seule, aussi seule, pauvre petite fille riche. Tes parents croyaient qu'on s'amusait, ils n'ont pas voulu croire qu'on s'aimait, pauvre petite fille riche. Ce soir on s'est revu pour la dernière fois. Ce soir on s'est aimé pour la dernière fois. Ah, il aurait mieux valu ne jamais se rencontrer, car maintenant il va falloir oublier. Toute seule
sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, oh si seule, pauvre petite fille riche. Toute seule sur cette plage, tous les deux, cet été nous étions si heureux, pauvre petite fille riche. Jamais se rencontrer, car maintenant il va falloir oublier notre amour.
Impossible amour, pauvre petite fille riche, c'était en 1963. Claude François, vous l'avez reconnu, le texte est signé Vline Bugy.
François, vous m'avez parlé tout à l'heure de Tonton Cristobal, la chanson de Pierre Perret. Vous vous souvenez tous et toutes. Mm-hmm. Bon. Eh bien, c'est une histoire d'oncle d'Amérique. Vous y croyez, vous, à l'histoire de l'oncle qui revient d'Amérique, cousu d'or?
Ah bah cousu d'or, je ne sais pas. Moi, j'ai un oncle qui est parti en Amérique. Il y est resté 5 ans et il en est revenu. Il n'était pas franchement cousu d'or, mais j'ai un oncle.
Et vous allez hériter peut-être alors?
Ah non, pas du tout. Il a 4 enfants, je ne serai pas le premier sur la liste.
Ah oui, parce que c'est le mari de cette tante que vous aimez tant.
Sébastien, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous n'allez pas me brouiller avec ma famille pour une histoire d'argent.
Mais François, votre famille ne m'intéresse pas le moins du monde.
J'adore tante Bernadette.
Mais je m'en doute, mais d'autant que tante Bernadette n'est pas riche. D'aucun côté, donc de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais vous raconter une histoire d'oncle d'Amérique, une vraie. Une histoire de légende. C'est arrivé dans un village italien proche de Gênes et c'était en 1959.
L'Italie compte depuis quelques heures un village unique en son genre. C'est le village des millionnaires. Chacun de ses 284 habitants a reçu en effet la somme de près d'1 million de lire. Au début du siècle, un paysan de San Marco d'Uri, c'est le nom de ce petit village de la province de Gênes, alla chercher fortune en Amérique. Il y devint milliardaire. Le seul rêve qu'il ne put jamais réaliser fut de revoir le village de son enfance. Pour honorer la mémoire de leur père, l'émigré en question, Joseph et Victor Saturno ont décidé de léguer à San Marco d'Uri la somme de 200 millions. La distribution vient d'avoir lieu sur la grande place du village. L'opération n'a pas été facile. Chaque paysan a dû signer 8 documents. Le maire a dit:
speriamo proprio che questa iniezione di milioni possa costituire una pietra.
Nous espérons que cette injection de millions constituera la clé de voûte de la prospérité du village. Une octogénaire barricadée chez elle avec ses 2 enfants a refusé de toucher la somme. Je n'ai jamais signé de ma vie, a-t-elle dit de sa voix chevrotante, et je ne signerai jamais. Après la cérémonie, un banquet a réuni les néo-millionnaires dans la trattoria du village. Le propriétaire avait passé la nuit à préparer 10 000 raviolis. Il était néanmoins l'homme le plus heureux du village. Sa famille, composée de 9 personnes, a reçu plus de 8 millions.
Alors vous voyez, en Italie, c'est pas la galette, hein, c'est les raviolis.
10 000 raviolis.
La trattoria du village pour des millions de lire. Mais tout de suite, une séquence d'importance, la séquence 78 tours. Ça bazarde comment dans vos 78 tours ce matin?
Ça date de 1932, ça bazarde plutôt de façon rigolote, puisque la chanson s'appelle, le titre de la chanson c'est « C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent ».
Ah bah non, ça c'est sûr, c'est encore moins rigolo de
C'était dans un film qui s'appelle Barranco, dont je n'ai absolument rien trouvé, je n'ai rien à vous dire. Ça a été très difficile de trouver des éléments pour vous expliquer de qui il s'agissait, Tramel.
Inconnu au bataillon.
Tramel, c'est lui qui chante. Alors Tramel, bah écoutez, on sait qu'il a enregistré pas loin d'une centaine de chansons. On sait encore que sa carrière a connu son apogée à la fin des années 20 et au début des années 30. Et d'après un relevé des titres qu'il a enregistrés, on peut imaginer que Tramel s'était spécialisé dans le répertoire comique. Je vais vous donner quelques exemples de chansons qu'il a enregistrées. L'As du Turf, ou alors Les yeux miteux, qui portait comme sous-titre chanson ophtalmique. La Môme Biclot, la marche officielle du Tour de France dans les années 20, ou Nos maudits mots de Rhin. Il a chanté Tramel à l'Eldorado, ce célèbre café-concert qui a été construit à Paris, boulevard de Strasbourg. L'Eldorado qui a connu ses heures de gloire jusqu'à la Première Guerre et qui a été à la fin des années 20 repris par Georgius, autre chanteur comique célèbre. Tramel a hanté également la scène des Folies Bergères et en 1932, il a gravé cette perle. C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent.
Dans le monde, il y a des gens qui, pour avoir de l'argent, commettraient les pires folies. Moi, je vous jure, je suis pas comme eux et je ne me fais pas des cheveux pour une telle plaisanterie. Quand je pense ma parole, qu'il y en a qui se mettent voleurs et qui cambriolent, ah là là, je rigole et je les plains de tout mon cœur. C'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent, car on se crée aussitôt des tas de tourments. On n'en mange plus, on ne dort plus sur ses oreilles. On ne vit plus, on ne pense plus qu'à son oseille. Il vous faut tenir un rang, c'est embêtant, car on est quelqu'un maintenant de très important. On n'est plus libre de soi, on est toujours aux abois. Avoir de l'argent entre nous, ça n'est pas rigolo du tout, du tout. Il y a d'abord le proprio qui vous en prend un morceau. Et entre nous, ça n'est pas rigolo du tout, du tout.
Tramel, c'est pas toujours rigolo d'avoir de l'argent. Sébastien, oui. Notre témoin Bob Swaim, le réalisateur de cinéma,
vous l'avez rencontré, je l'ai rencontré dans les toilettes d'un petit troquet.
Et vous ne lui avez toujours pas posé les questions essentielles. Enfin, ça m'étonne de vous. Mais vous ne lui avez toujours pas demandé comment on faisait, comment on gérait l'argent quand il arrivait en grande quantité, quand on avait un grand succès. Enfin, faites votre métier, mon ami.
Oui, mais écoutez,
c'est ça qu'on attend.
J'avais franchement pas pensé, mais attendez. De toute façon, si ça se trouve, il est encore aux toilettes, hein, parce que bon, attendez, j'y vais.
Dans,
tout de suite.
Dans le bar dans lequel vous l'avez rencontré.
Oui, j'y vais tout de suite.
Je vous suis.
Bob, tu es là. Alors, est-ce que tu pourrais me dire comment on fait pour gérer de l'argent qui arrive en grosse masse comme ça quand on est un cinéaste à succès?
Je crois que l'argent, c'est une chose très... les gens réagissent dans une manière très, très différente et c'est très divers parce que c'est plus une question de... Il y a deux choses. Il y a une question de culture. Parce que dans les cultures différentes, on réagit de manière différente, et puis une question d'individu. Je trouve qu'on... je connais des gens qui étaient pauvres et qui sont devenus riches, qui sont plus radins qu'on peut imaginer, et puis je connais des gens pauvres qui sont devenus riches, qui sont extrêmement généreux. Moi, je sais que dans ma vie à moi, j'avais une enfance confortable, middle class américaine, classe moyenne américaine. C'était une période, les 50s, les années 50, où tout le monde vivait bien. Il y avait un moyen de vie formidable. Et puis, quand j'ai décidé de tout abandonner, de venir en France, d'avoir une vie, entre guillemets, d'artiste en France, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pendant 12-15 ans. Et j'étais pas malheureux quand même, parce que j'étais... j'avais une chambre de bonne, j'avais pas d'eau chaude, mais j'étais à Paris, j'avais les toits de Paris sous ma fenêtre, j'étais j'étais extrêmement nerveux. Il y avait une liberté. C'était, mais à un moment donné, que ça devenait difficile, parce que d'aller, avant d'aller dans un café, il fallait que j'ouvre le portefeuille et je comptais de voir si j'avais assez pour acheter un café ou si je pouvais acheter un repas. Et ça durait quand même 12, presque 12 ans comme ça, 12 années comme ça. Et le jour que j'ai commencé à faire des films qui marchaient, j'ai commencé à avoir un peu d'argent et puis un peu plus, etc. Et à un moment donné, que je vivais très bien. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai tout dépensé parce que c'était pas important. C'était pas important pour moi de l'argent. Et puis quand on n'en a plus, qu'est-ce qu'on fait? On panique et on dit il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse des films, il faut faire des trucs. C'est curieux l'argent parce que c'est quand même un moteur pour les gens.
Marcher les hommes dans ce monde de fous, ceux qui vendent leur âme et se traînent à genoux, qui fait tourner la terre et fait tourner les têtes. Billets verts ou billets doux, billets verts ou billets doux, qu'est-ce qui fait des âmes des requins et des loups? Qu'est-ce qui fait que l'on donne et que l'on nous prend tout? Qu'est-ce qui nous est cher et qu'est-ce qui vaut le coup? Billets verts ou billets doux, billets verts ou billets doux,
quand bien
ça va comme l'argent que l'on gagne. On achète la forme, on détourne le fond. On achète content, mais on plisse le front. On t'invite à dîner si tu paies l'addition. Billets doux et billets verts, ces amis qui nous sont chers. Une autre valeur à la baisse, celle du peu d'amour qu'il nous reste. Combien pour mon silence, pour ne pas dire ce que je pense. Combien le cœur ne me bat, combien tu l'estimes, dis-moi.
Combien ça va, Florent Pagny? Vous voyez la chanson est très inspiré dès qu'il s'agit d'argent.
Mais alors, vous savez quand même que dans la chanson, tout à l'heure, les innocents, vous disiez que c'était un peu démagogique, mais alors ça aussi, c'est un peu craché dans la soupe, parce que les gens qui s'en plaignent sont ceux qui, enfin, ils gagnent de l'argent en s'en plaignant, visiblement.
Bon, écoutez, si vous voulez gagner de l'argent facilement, vous n'avez qu'à jouer au loto.
Ah bah, ça m'arrive.
Ou alors aux courses.
Ah, ça m'arrive.
Vous savez que les Français consacrent chaque jour 197 800 1656 francs aux paris et aux jeux de hasard. Et ce sont les courses hippiques qui remportent le pompon, avec 93 698 630 francs de recettes chaque jour.
Oui, oui,
et la Française des Jeux,
oui. Merci François.
92
merci,
millions.
Merci. Au revoir. Moi, je vous propose
francs.
Quelque chose de plus centimes. Intéressant. Je veux détruire une légende. On a dit à plusieurs reprises que M. Fernand Reynaud n'était pas généreux et qu'il était même radin.
C'est
eh bien,
vrai.
Moi, je m'insurge contre cette affirmation car c'est faux et j'en ai la preuve. Et c'est pas grâce à vous. C'est grâce à Tommy Franklin. Tommy Franklin, en 1962, s'est rendu chez Fernand Reynaud. Alors, Tommy, vous allez pouvoir nous prouver, enfin, que Fernand Reynaud n'est pas radin et qu'au contraire, c'est quelqu'un de très généreux.
Fernand est à côté de moi. Et Fernand, tout de suite, vous allez me dire exactement ce qui s'est passé hier.
Eh bien, comme je fais des petits galas en France actuellement, j'ai dit, tiens, mais j'ai une journée de repos, je vais en profiter, je vais aller à la maison. Alors, j'étais allongé, là, sur mon fauteuil.
Quelle heure ?
C'était 2 heures. J'étais en train de lire Le Pèlerin. Et d'un seul coup, j'ai vu un type qui arrivait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? Et d'habitude, je vais jamais ouvrir la porte. Et puis, j'étais comme ça avec ma femme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce gars-là ? Il m'a dit, oh les mains, OAS.
Attendez, l'aspect physique.
Donne-moi l'oseille. Ou je te tue. Voilà. Et bien, l'aspect physique, c'est après que je l'ai eu. Il avait des lunettes noires. Enfin, je suis persuadé que dans la vie, il n'en a pas. Puis un béret. Et puis un imperméable en nylon bleu, quoi. Alors je lui ai dit, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh les mains, on n'a même pas levé les mains. Et puis je l'ai fait asseoir, j'ai dit, calme-toi, il ne voulait pas s'asseoir. Donne-moi l'oseille tout de suite, 15 millions. J'ai dit, où est-ce qu'il va y les prendre ? Ah, il n'y a pas à discuter, je te fais la peau tout de suite. Moi je suis un condamné à mort. Si jamais on me prend, je suis fusillé. Alors maintenant, si tu préviens les flics, la première balle est pour toi, et après je fais des cartons. Vous voyez, alors j'ai dit, moi alors maintenant tu fais ce que tu veux, mais je ne peux pas te donner 15 millions parce que je ne les ai pas. J'ai 3 millions d'euros, mais c'est tout ce que je peux te donner. Ah, il me dit non. Tu en es arrivé à 4 millions parce que j'ai dit, je vais emprunter 800 000 francs. C'est ce que je lui ai fait. Je lui ai fait un chèque de 40 000 francs. Là, il me dit, maintenant ta femme va aller chercher l'oseille à la banque et je l'attends ici.
Alors après, votre femme est revenue?
Oui, au bout de... Elle a bien mis 1h30.
Et elle n'a pas pensé à aucun moment, pendant qu'elle était absente, de...
De prévenir la police?
Oui.
Il me descendait. Et je vais vous le prouver. C'est que quand elle est arrivée en taxi, il a cru que c'était un gars de la police. Alors je lui ai dit, viens, on va se débiner par derrière. Parce que je crois que tu... Ça sent pas bon. Alors, on est ressorti par les jardins, par derrière. Et il me dit, calme-toi, parce que si elle a prévenu la police, c'est pas la peine de se débiner, parce que je suis cuit. On est cuit.
Et il est reparti vers quelle heure ?
Alors, j'étais chez un voisin qui m'a prêté sa voiture. Et il m'a dit, maintenant tu vas m'amener à Paris. Quand je lui ai donné l'argent, je lui ai dit, sois chouette que j'ai plus un rond. C'est vrai, j'ai plus un sou. Je lui ai dit, bah, tout s'est bien passé, t'as vu, j'étais correct. Donne-moi 10%. Ah non. Bah, la moitié alors. Non, j'ai dit, t'es salaud. Et alors à ce moment-là, il m'a donné 100 000 balles.
Ah quand même ?
Oui, parce que j'étais sincère de lui dire ça. Et il s'en est aperçu, il m'a donné 105.
Mais dites-moi, Sébastien, c'est un véritable sketch.
Oui, c'est un vrai sketch, mais c'est arrivé vraiment. Comme quoi, la réalité dépasse souvent la fiction.
Merci,
mais...
Tommy Franklin.
Merci à moi aussi, puisque c'est moi qui ai été trouvé cette archive.
Oui,
c'est
bravo,
moi-même, donc. Sébastien Danchin, votre serviteur. François, oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette émission, jusqu'à part critiquer ?
Bah écoutez, je vous ai déjà proposé un certain
bon
nombre de chansons.
Allez-y, dites. Ah,
j'ai également un sketch. Un sketch signé Bernard Lavilliers.
Mais non, c'est un chanteur.
Ah bah écoutez, alors là, bah, voilà, j'ai la preuve.
Ah bon ?
Bah, parce que regardez, le billet de 100 francs que vous avez dans
oh,
les mains.
Oui. Hein,
il a déjà effleuré de nombreuses autres mains depuis qu'il est imprimé. Eh bien, c'est ce que nous raconte Bernard Lavilliers, les aventures extraordinaires d'un billet de banque.
Oh, c'est pas possible.
Si.
On va tout savoir ?
Oui.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie. En jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavilliers, ouais. Mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui font une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts, aliénés dans le décor. Je suis passé sous les tables, j'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais, dans quelles mains je suis passé, tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirais rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais, j'aimerais qu'on me foute la paix.
L'argent, les aventures extraordinaires d'un billet de banque en 1975, Bernard Lavilliers.
Et c'était un sketch.
Écrit et chanté.
François, à propos de sketch, voilà. J'ai un vrai problème.
Oui, lequel ?
Dites-moi. Vous vous souvenez de Bob Swem qu'on a reçu à ce micro aujourd'hui même, tout à l'heure ?
Oui, oui, oui. Que se passe-t-il ?
Il est coincé dans les toilettes, il est coincé aux chiottes, quoi.
Bah, profitez-en, mon vieux.
Oh, dites, je veux quand même pas.
Non, mais attendez, profitez-en, vous êtes un professionnel, oui, cherchez, posez-lui une question.
Le professionnalisme prime mon excellence, il faut que je cours après l'excellence du professionnel.
Bah oui,
bon, ben, j'y vais, hein, vous m'attendez.
Oui.
Bob, excuse-moi de te déranger. Je sais que tu n'avais pas pris de pièces de 1 franc pour sortir et pour payer, donc tu restes coincé. Mais est-ce que tu imaginais, toi, depuis tout ce temps-là, est-ce que tu imaginais que l'argent, c'était quelque chose d'aussi risqué ?
C'est dangereux, l'argent, parce que ça peut fausser beaucoup de choses. Ça peut fausser des rapports avec les gens. Ça peut, dans l'éducation de son enfant, il faut faire très attention parce que moi, je vois avec mes enfants. Quand j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait attention de ne pas les gâter. Mes deux fils, c'est des garçons qui travaillent, ils font des études, mais ils travaillent à côté pour l'argent de poche. Il faut connaître les valeurs des choses, c'est très important. C'est très dangereux d'être assisté. C'est très dangereux même pour les artistes. Moi, je dis l'idée des bourses, par exemple. C'est une chose dangereuse aussi. La France, qui est un pays formidable parce qu'on donne beaucoup à la culture, mais au niveau de productivité, est-ce qu'on peut dire que notre cinéma, notre littérature, notre peinture, etc., est-ce que c'est parmi les meilleurs du monde ? C'est pas sûr, hein ? Souvent, c'est dans les pays sous-développés ou les pays, justement, où il n'y a pas cette aide aux artistes, qu'on voit quand même une grande créativité et beaucoup d'innovation. Je sais que je vais certainement attaquer pour avoir dit ça, mais j'ai quand même quelques doutes sur la politique de subvention économique des artistes dans ce pays. J'en suis pas persuadé que c'est une bonne chose.
Oui, enfin, on va quand même pas crever la dalle et rester derrière les barreaux pour être de meilleurs créateurs. Il exagère un peu, Bob.
Non, je suis pas sûr qu'il exagère tant que ça, de toute façon. Remarquez, maintenant, il est coincé, de toute façon, dans les toilettes du
oui,
café
vrai.
Au job, donc il ne risque rien, parce qu'il risque d'être attaqué dans la profession. Mais j'ai une question importante. Est-ce que vous aimez votre percepteur ?
Ah ben, je ne le connais pas. Moi, je commerce avec lui uniquement par courrier.
Non, mais je vous dis, c'est pour ça, parce que Tommy Franklin...
Ah, sacré Tommy.
Oui, ben, ce sacré Tommy m'a raconté une histoire assez extraordinaire d'un percepteur qui était tellement aimé dans son village qu'on avait fait une pétition pour le garder. Alors moi, ça m'a paru extrêmement, extrêmement louche. Alors j'ai demandé à Tommy. Tommy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous un peu faire le point sur cette affaire ?
Eh bien, ce matin, vous avez peut-être lu dans votre journal que 96% des 900 habitants de Angest-en-Santerre dans le département de la Somme s'opposaient, aux surprises, au départ de leur percepteur, M. Galland. Mais quel était donc ce preux chevalier de la feuille d'impôt ? Cet Haroun al-Rachid du tiers provisionnel, et quel bienfait dispensait-il à une population débordante d'une telle gratitude à son égard? Après 115 km de brouillard traversé et de betteraves carambolées, nous nous sommes retrouvés à Angest-en-Santerre, dans la coquette épicerie de Madame Béguin, qui, rougissante avec une charmante modestie devant notre micro, nous éclaira quelque peu sur la question qui nous amenait.
Il était question que le percepteur s'en aille. Et comme il n'y a pas de logement à Angest-en-Santerre, il était dit que s'il venait à notre percepteur, probablement qu'il ne resterait pas ici. Alors, on a fait un référendum à Angest pour savoir si la population était favorable à la construction d'un logement pour le percepteur et en même temps pour la poste.
Mais attendez, alors, à ce train-là, il me semble que c'est plutôt la perte du percepteur qui vous affecte que la perte de M. Galland lui-même.
Oui, en principe, oui.
Ah bon, alors moi je croyais que c'était l'immense popularité de M. Galland.
M. Galland est bien aimé aussi ici, alors on voudrait bien le garder.
Eh bien, nous allons maintenant voir si M. le maire est du même avis que l'épicière. M. le maire, s'agit-il de garder M. Galland en tant que M. Galland ou s'agit-il de garder un percepteur à Angest?
La véritable question est celle-ci. La commune d'Angest veut à la fois que la perception reste à Angest, qui a toujours été siège d'une perception, et que d'un autre côté, le bureau de poste d'Angest soit tout de même aujourd'hui un bureau de poste convenable.
Et voilà. Nous étions partis pour un gentil cloche-merle agrémenté d'un brin de pagnol nordique, et je crois que c'est un peu le journal officiel que nous avons rencontré.
Ma fiancée s'est tirée il y a un mois, en emportant tout ce qu'il y avait chez moi. Ma télé, mon chéquier, mon frigo, ma voiture, mon... Les temps sont durs. De toute façon, comme dit Gilbert, mon cousin de Brie contre Aubert. Avec les filles, y a pas de surprise. Celles qui sont bien sont déjà prises. Ouh, les temps sont durs. Les années folles sont terminées. Les temps sont durs. N'est plus ce qu'il était. La sécu, le loyer, la vignette, la TVA, les impôts, les parcs-mètres. Chaque matin, au courrier, des PV, des factures. Les temps sont durs. De toute façon, j'ai lu dans le journal que même à l'Élysée, ça va mal. Tous les ministres, pour payer leurs impôts, vont faire la manche à la sortie du métro. Ouh, les temps sont durs, les années folles sont terminées. Les temps sont durs, même le futur n'est plus ce qu'il était. Sortir de mon lit, j'ai peur d'attraper des saloperies. Maintenant quand une fille me sourit, je fais demi-tour et je m'enfuis. Les poissons sont radioactifs et y a du mercure dans le corne-bif. Maintenant avant d'ouvrir mon frigidaire, où je vais chercher mon compteur Gégère. Les temps sont durs, les années folles sont terminées. Les temps sont durs, même le futur n'est plus ce qu'il était.
Les temps sont durs, Thierry Hazard. Les temps sont faits durs, mais le temps, lui, n'attend pas.
François, il est l'heure de passer à la caisse.
Oui, passons à la caisse. C'est le bazar a été réalisé grâce à nos polyvalents du ministère des Finances, Anne-Laure, Florence et Catel, notre conseillère financière Edith Monéger, notre autre conseillère financière Mireille Vasseur et notre trésorier payeur général Serge Gandon, qui est assisté de la cadre B aux finances Christina Huillard. Quant à nos caissiers, ils s'appellent Pierrick Monsigny et Richard Lardry. Chip, chip, chip. Et demain, Sébastien, dans notre bazar?
Bon, aujourd'hui, vous avez gagné pas mal d'argent avec cette histoire.
Peu,
ça
peu.
Va. Bon, ouais. Donc, demain, il est temps de
d'ailleurs,
le dépenser.
D'ailleurs, on est mal payé.
Il est temps de... Il est temps... Bien sûr, on est toujours mal payé. Il est temps de le dépenser. Et pour le dépenser, il faut aller au marché acheter des tomates, des légumes, du poisson, mais aussi des animaux, des chiens, par exemple, ou encore des chats.
Ah, voici des chats persans en bleu dans un magnifique panier d'osier. Eh bien, la première chose que je vous dirais, mes chers auditeurs, c'est qu'ils sont gris.
Est-ce réellement une pénitence? C'est ce que nous avons demandé à un prêtre et c'est ce qu'il nous répondra demain.